19h48, minutes direction Boca Raton en Floride pour le meeting des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. François Gagnon est avec nous. Salut François.
Bonsoir Jérémy.
François, avant qu'on se parle de ce qui se discute entre les directeurs généraux, je veux prendre quelques instants pour revenir sur le texte qu'on peut lire sur le rds.ca. Il y en a un qui est très populaire comme DG. C'est un gars qui a dit à tout le monde « Je serai all-in ». Son nom, c'est Keke Leinen, le directeur général des Blue Jackets de Columbus. Tu as eu la chance de le rencontrer. Est-ce qu'il regrette d'avoir sacrifié tant pour son équipe?
Ah, pas du tout. Il regrette pas en ce moment qu'il a fait, même si son équipe a perdu quoi, le 3 matchs la semaine passée. Puis il nous a dit, je le regretterai pas si vous me posez la question l'année prochaine encore, même si on ne gagne pas la Coupe Stanley. Parce que du côté des Blue Jackets de Columbus, on le sait, là, c'est une situation de, tu l'as dit, là, all-in. Là, c'est une situation qui est au double. On y va. Là. On y va parce qu'on sait que on a pris un grand risque en gardant Panarin et Bobrovsky, qui pourraient quitter l'équipe comme joueur autonome en juillet prochain. John Tavares a fait aux Islanders l'été passé. Et ce qui s'est fait reprocher, on l'a vu à Union Day la semaine dernière par les partisans des Islanders. Mais en plus de tout ça, Keke Leinen, ben, il a sacrifié des espoirs et des choix au pêchage pour mettre la main sur Matt Duchene, sur Ryan Dezingle et aussi sur Adam McQuaid des Rangers de New York. Donc, il a dit, écoute là, moi, je suis un directeur général qui considère que pour améliorer ton équipe, il faut que tu rajoutes des joueurs. Et c'est ce que j'ai fait. Les meilleurs espoirs de mon organisation, puis il nous en a nommé trois qui sont des attaquants, il a aussi dit, j'ai des gardiens de but, il dit, les meilleurs espoirs de mon organisation, je les ai gardés, je les ai pas donnés. Et les choix au pêchage, et ça c'est curieux parce que ça va contrairement complètement à la philosophie de Marc Bergevin à Montréal, il a dit, les choix au pêchage, c'est bien beau, mais c'est juste des choix au pêchage. Il dit, bon an, mal an, quand tu frappes 2-7, tu as eu une maudite bonne année. Ça veut dire que, oui, j'ai laissé partir des choix, mais je les ai laissés partir pour des joueurs qui sont déjà des solides joueurs dans la Ligue nationale. Alors, c'est le risque que j'ai décidé de courir. Mais on dit, oui, mais t'es pas sûr de gagner la Coupe. Puis là, il s'est retourné de côté, puis il a dit, ouais, mais c'est bien beau, mais moi, j'ai pas parlé de Coupe Stanley, là. Moi, j'ai fait ça d'abord et avant tout pour m'assurer d'une place en série. Je suis pas sûr, je pense qu'il a exagéré un petit peu. Mais il a dit, ça se pourrait que ça prenne 99 points dans l'Est pour accéder aux séries éliminatoires. Ça, c'est du jamais vu, là. Et s'il faut se rendre jusque-là, il dit, il était pas question que je cours le risque de pas faire les séries. Oui, on reproche aux Blue Jackets de ne jamais avoir franchi la première ronde. Ils sont allés 5 fois en série dans leur histoire, mais ils ont jamais franchi la première ronde. Mais il dit, cette année, là, si je veux franchir la première ronde, il faut d'abord que j'accède aux séries. Et c'est d'abord et avant tout pour ça que j'ai procédé aux transactions que j'ai effectuées.
Donc, il manquait juste un petit bout de phrase dans son all-in. C'est all-in pour les séries. C'est ce que le DG des Blue Jackets de Columbus a dit. François, dis-moi, aujourd'hui, donc, rencontre des directeurs généraux. Quels ont été les sujets qui ont été présentés aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, c'est surtout de la poutine. Je vais dénigrer la poutine, il y en a de la très bonne, mais les directeurs généraux étaient divisés en petits groupes ce matin, des groupes de travail. On a discuté là des affaires courantes. Qu'est-ce qui se passe avec les contestations? Qu'est-ce qui se passe avec les suspensions? Est-ce qu'au niveau des règles, il y a des choses qu'on pourrait améliorer et discuter? Alors, tout ça va être ramené demain autour de la grande table, dans une grande salle. Ils sont tous réunis. Et là, le commissaire Bettman est là avec tous les gens des opérations hockey. Et sans tomber dans tous les détails, parce qu'il y a une trentaine de points à l'ordre du jour, il n'y a rien d'important. Là. Il y a une crise en ce moment à gérer. Ça, c'est bon, parce que là, on peut travailler sur le futur. Moi, je te garantis pas que ça va arriver, là. Mais je serais pas surpris que mercredi, quand on va partir d'ici, qu'ils nous annoncent que la saison prochaine ou d'ici 2 ans, dans les coins de patinoires au Centre Bell, comme dans tous les autres amphithéâtres, il va y avoir des cadrans sur lesquels on va voir le temps qui reste à disputer dans la période ou dans une punition, de manière à ce que les joueurs soient mieux informés. Tu sais, quand tu vas au Centre Bell, on est sur la galerie de presse, nous autres ou les gens dans le gradin, on est content de voir l'écran géant. Tu vois des détails, t'as plein de choses, plein d'informations là-dessus. Mais les écrans sont rendus tellement gros et il y a tellement d'informations que les joueurs, dans le courant du match, ils ont de la misère à voir en haut et à savoir exactement combien de temps il reste ici, combien de temps il reste à ça. Alors, en ayant des cadrans dans les 4 points de patinoire, on aurait de l'information qui serait facile à consulter. Et moi, personnellement, je trouve que c'est très bon. si tu es un fan de basketball, tu sais que depuis toujours, il y a un cadran au-dessus du panier pour ce qu'ils appellent en anglais le shot clock, c'est le temps qui te reste avant d'être obligé de tirer en direction du panier. Si c'est bon au basket, si c'est bon au football, parce que les corps arrière dans la NFL et dans la Ligue canadienne voient dans le fond de la zone des buts un gros cadran avec le temps qui reste avant qu'il y ait à mettre le ballon en jeu. Ça pourrait être bon pour le hockey aussi. Alors moi, je vois ça très positivement.
Ah, c'est une excellente idée. Honnêtement, c'est une excellente idée. Et sais-tu quoi? Je le souhaite. Je pense que tout le monde va comprendre un peu mieux ce qui se passe à la patinoire et les joueurs également. François, avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question. On se donnera rendez-vous demain pour cette deuxième journée des directeurs généraux. Mais t'allais parler arbitre, j'allais te parler de l'arbitrage. Est-ce que ça sera un sujet, ça? Est-ce que ça a été un sujet aujourd'hui?
Oui, c'est un sujet. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Tu sais que les arbitres peuvent pas jamais aller consulter du vidéo quand vient le temps d'analyser une pénalité. Ils le font dans un vrac, ils le font le lendemain quand ils ont le rapport de leur boss qui dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, tu aurais dû laisser passer ça ou tu aurais dû pénaliser ça. » Dans le cadre des pénalités majeures ou des doubles mineurs pour les bâtons élevés, tu sais, les pénalités plus qu'un simple accrochage, on se demande si on ne pourrait pas permettre à un arbitre d'aller au banc, de consulter le vidéo avant de donner une pénalité majeure parce que les conséquences sont beaucoup plus grandes. Je déteste pas ça parce que moi, je suis de ceux qui disent qu'il vaut mieux avoir la bonne décision qu'avoir une décision qui est proche et qui pourrait changer le cours d'un match. Est-ce que ça va retarder les parties davantage? C'est ça qu'il faut débattre, là. Mais à la base, je suis pas contre cette idée-là dans le cadre des pénalités majeures. Pas pour toutes les punitions, parce que là, on n'en reviendrait plus, mais dans le cadre d'une pénalité majeure, je serais favorable à ça.
François, je te remercie énormément. On se donne rendez-vous demain pour cette deuxième journée, réunion des directeurs généraux du côté de Boca Raton. François Gagnon, merci d'avoir été avec nous.
Salut, bonne soirée.
Merci, François Gagnon, en direct de Boca Raton. Petite nouvelle rapidement, je vous rappelle que Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu ont monté au classement. Dans le cas de Félix Auger-Aliassime, lui qui a fait un bond géant au classement ATP en s'installant au 60e rang la semaine dernière à la suite de sa participation à la finale à Rio de Janeiro. Donc, Aliassime, 18 ans, a gagné deux autres places après avoir atteint les quarts de finale. Dans le cas d'Andreescu, elle, c'est ici à la 60e position au classement, une amélioration de 11 positions après avoir atteint les demi-finales du tournoi de Acapulco. On s'arrête quelques instants, tout un début de saison pour l'Impact. Victoire de 2-1, malgré le fait que ça n'osait marquer le premier but. On est revenu, Piatti encore une fois marqué. Tous les détails au retour avec Vincent Destouches. Merci de choisir le réseau Cogeco. Merci d'être là aux amateurs de sport.